Voilà. Alors, hier matin, sans le savoir, parce que je ne suis pas assez informé des procédures du GBU, j'ai fait de l'OIA sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Et donc, hier, c'était du O. Observation. Alors, ce matin, il va falloir passer au IA. Interprétation et application. Alors hier, nous en étions restés là. Et pour réfléchir ensemble à l'application aujourd'hui de ce remarquable dispositif que l'on repère dans l'Ancien Testament à l'égard de l'immigré, nous devons d'abord tenir compte du rapport entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tel qu'il ressort de l'enseignement de Jésus et des apôtres. L'Ancien Testament est une préfiguration de choses qui se réalisent dans la Nouvelle Alliance. Et selon ce schéma, préfiguration, accomplissement, Israël, avec ses lois et notamment ses lois à l'égard de l'immigré, Israël est la préfiguration de l'Église. Et il nous faut donc observer quelles sont les constantes entre Israël et l'Église, quelles sont les différences. Comment dans l'Église s'accomplit ce qui a été préfiguré par Israël dans l'Ancienne Alliance? Alors Israël, c'est une entité ethnique, c'est une entité nationale, et nous avons repéré que cette identité ethnique et nationale doit avoir une préoccupation particulière pour l'immigré, ne pas l'opprimer, ne pas l'exploiter, l'aimer, assurer ses droits fondamentaux, le faire bénéficier de dispositifs d'entraide, offrir aussi la possibilité de s'associer à des actes du culte, et en même temps que dans l'Ancien Testament, il y a le souci de garantir des droits spécifiques pour les Israélites. Aussi de sanctionner avec une grande rigueur les transgressions, la transgression des interdits religieux, aussi bien pour les immigrés que pour les autochtones. Alors, quelles sont les continuités, quelles sont les différences que nous observons dans cet accomplissement de la préfiguration de l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance? Le peuple de la Nouvelle Alliance, lui, n'est plus une entité ethnique nationale. Le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est une communauté de croyants qui rassemble des personnes sans distinction d'origine, sans distinction d'appartenance à une nation. À l'époque du Nouveau Testament, la grande question, c'est celle de savoir. Alors, je reviens de la grande question qui se pose et qui est l'objet de débats extrêmement vifs dans l'Église, et même de conflits à un moment donné entre Paul et Pierre. La question, c'est de savoir quel est le rapport entre le peuple d'Israël et l'Église. Faut-il devenir juif pour être chrétien? Faut-il s'assimiler aux juifs? Faut-il se faire circoncire? Je suis allé un peu trop vite là. Faut-il faut-il se faire circoncire? Vous vous souvenez que la voie d'accès à la Pâque, notamment pour faire la Pâque, un guerre doit se faire circoncire. Faut-il se faire circoncire? Et à cette question, l'apôtre Paul répond de manière très ferme et avec une constance imperturbable. Il répond non. Non, ce serait trahir l'Évangile. Ce serait prêcher un autre Évangile. Parce que c'est par la foi et par la foi seule en Jésus-Christ qu'on entre de plein pied dans l'Église et qu'on y entre de plein droit. C'est par la foi qu'on devient héritier des promesses, qu'on devient concitoyen des saints, comme Paul l'explique au chapitre 2 de sa lettre aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 19. Et dans ce même chapitre, il dit que Dieu a aboli le mur de séparation entre juifs et non-juifs, chapitre 2, verset 14. Donc on voit de cette manière comment l'Église est l'accomplissement de ce qui était préfiguré dans l'Ancien Testament avec son insistance tout à fait remarquable sur l'étranger immigré. Ce n'est pas seulement une question humanitaire. Bon, bien sûr, ça n'est pas indifférent que la loi de l'Ancien Testament contienne des dispositions dont le caractère humanitaire est si évident. Mais c'est surtout l'expression de la volonté universelle de Dieu. Dieu, en choisissant Israël, en choisissant un seul peuple parmi tous les autres, pouvait donner l'impression qu'il restreignait sa visée. Il ne s'intéresse plus qu'à un seul peuple et les autres. Et non, Dieu garde sa vision universelle et l'intérêt pour l'immigré, et je pense s'il y a une telle insistance sur l'immigré, c'est pas seulement parce que peut-être Israël avait de la peine à s'intéresser à lui, mais parce que c'est l'expression de la volonté, la visée universelle de Dieu. Et maintenant, dans l'Église, cette visée universelle s'accomplit de manière tout à fait évidente. Et Jésus en donne mission à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Faites de gens de toutes les nations des disciples. Composée de gens de toutes les nations, l'Église témoigne de l'amour de Dieu, l'Église accueille des personnes de toutes les nations et les appelle à croire au Christ, elle les appelle à devenir ses disciples. Et ainsi, cette insistance sur l'immigré dans l'Ancien Testament se réalise dans une communauté missionnaire, la communauté de l'Église. Quel magnifique accomplissement! Alors, dans cet accomplissement, que deviennent les interdits religieux et la sanction de ces interdits religieux? Parce que, comme je l'ai dit, nous avons une vision globale dans l'Ancien Testament. On ne peut pas simplement se permettre d'en prendre une partie et de laisser le reste. Alors, question. Que deviennent les interdits religieux de la loi sur l'immigré dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance? Je pense qu'il ne vient à l'idée de nul d'entre vous, en tout cas je l'espère, de penser que l'Église devrait appliquer la peine de mort contre le blasphème ou que l'Église devrait attendre de l'État qu'il le fasse ou réclamer à l'État qu'il le fasse. Pourtant, il y a un épisode dans le livre des Actes où on voit que la peine de mort n'est pas si loin. Lorsque Pierre, s'adressant à Saphira dont le mari vient de mourir, lui dit « Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter. » Actes chapitre 5, verset 9. Alors c'est évidemment un événement tout à fait exceptionnel. Heureusement que c'est un événement exceptionnel, parce que sinon il n'y aurait pas grand monde dans l'église. Mais c'est un événement qui donne à réfléchir. Et je vous propose donc l'articulation suivante. L'articulation suivante entre Israël et l'Église à propos de ces lois sur les interdits religieux et de leurs sanctions. C'est à partir d'une identité forte, ferme, d'une identité qui est définie et qui est garantie par des lois rigoureuses, que la loi de l'Ancien Testament se montre si généreuse envers l'immigré. Extermination des Cananéens pour préserver Israël de l'idolâtrie. Interdits religieux imposés à tous, autochtones et étrangers. Cette extrême rigueur, elle peut nous paraître en tension et même en contradiction avec la générosité. Comment mettre ensemble cette rigueur et cette générosité? Mais en fait, c'est la rigueur qui conditionne la générosité. Les deux sont étroitement associés et sont inséparables. C'est quand le peuple d'Israël est vraiment ce qu'il doit être, Israël, tel que Dieu le veut, sans culte de faux dieux, c'est là qu'il peut être généreux envers l'immigré. Et dans le Nouveau Testament, nous pouvons percevoir une corrélation similaire, une corrélation entre la grâce, le message de l'amour de Dieu, le message du pardon pour toute personne qui s'approche de Dieu dans la foi en Jésus-Christ et qui lui reconnaît ses fautes, d'un côté le message de la grâce et en même temps la rigueur de la discipline de l'Église, discipline de doctrine et discipline de morale. Il n'est pas question d'enseigner n'importe quoi dans l'Église. Il n'est pas question, si on lit attentivement le Nouveau Testament, il n'est pas question de faire n'importe quoi dans l'Église. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples, parce qu'il faudrait en citer des dizaines et des dizaines, mais je vais vous citer deux textes qu'on peut considérer comme emblématiques de cette discipline mentionnée dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 1, verset 9. « Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit damné. » Ça, c'est pour la doctrine et pour la morale. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. « Ceux du dehors, Dieu les juge. » Mais vous ôtez le méchant du milieu de vous. Alors bien sûr, la communauté croyante n'use pas des moyens dont use un État pour sauvegarder son identité. Et ça, c'est une des différences essentielles entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pas de contraintes physiques, pas de sanctions légales, mais le principe reste le même. Pour que se réalise dans le monde le projet de Dieu, parce que c'est ça tout le message de la Bible, pour que se réalise dans le monde le message de Dieu, le projet de Dieu, l'Église doit avoir l'Église doit avoir une identité qui corresponde aux intentions de Dieu. L'Église n'est pas une joyeuse compagnie de gentils copains qui accueillent tous ceux qui veulent faire la fête avec eux. C'est quelque chose de sérieux. Alors, ça n'empêche pas du tout de faire des danses australiennes et d'apparaître comme une joyeuse compagnie de gentils copains. Mais l'Église apparaît comme une joyeuse compagnie de gentils copains, non pas parce qu'elle est fondamentalement une joyeuse compagnie de gentils copains, mais parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui réunit et qui unit les croyants entre eux. Et c'est à cette condition-là que l'Église peut relever ce défi d'être une communauté qui rassemble des gens d'origine différente, des gens de culture différente. Alors aujourd'hui, on ne cesse de dire, on ne cesse de répéter que les différences de culture sont une richesse. Bon, c'est très joli en théorie, et c'est très joli vu de l'extérieur, mais en fait, c'est quand même un redoutable défi. Et est-ce que ce n'est pas aussi une source permanente d'incompréhension, une source de frustration et une source de conflit? Vous voyez les débuts de l'Église. Actes chapitre 2, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Tout était commun entre eux. C'est magnifique. Chapitre 6, verset 1. La multitude, le nombre des disciples augmentant, merveilleux. Le nombre des disciples augmentant, les anglophones se plaignirent des francophones parce qu'ils s'estimaient lésés dans la distribution. C'est très symptomatique de la division, que la division se fasse précisément sur la différence de langue. Tous ces gens-là qui sont dans l'Église sont tous des juifs. Mais les uns parlent grec, les autres parlent araméen. Et quand il y a un problème de distribution, comme par hasard, c'est sur la différence de langue que va se focaliser le problème. Il faut une identité très forte. Il faut une identité très forte pour surmonter les différences de culture. Et une identité très forte pour arriver à gérer les problèmes qui ne manquent pas de surgir. Et cette identité très forte, c'est tout le message de l'Évangile qui nous le donne. Cette identité, c'est de se reconnaître aimé, sauvé par le même Seigneur. C'est de l'aimer, lui, par-dessus tout. De s'engager à le suivre. Cette identité si forte, elle nous est rappelée dans le repas du Seigneur. C'est la mort de quelqu'un qui nous réunit. Nous sommes unis par le corps et le sang du Christ qui est mort pour nous. Et c'est avec une identité aussi forte que l'universalité de l'Église, qui rassemble des personnes d'origine si diverses, peut être vécue. Voilà donc pour l'accomplissement dans l'Église. Et là, nous sommes dans l'axe de la révélation biblique. Cet axe qui part d'Israël, de l'Église dans le temps présent et qui va vers la Nouvelle Jérusalem dans l'accomplissement final du dessein de Dieu. Là où se tiendront, la Nouvelle Jérusalem, où se tiendront devant l'agneau, en robe blanche, des palmes à la main, une grande foule que personne ne peut compter, des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Ça, c'était l'idéal de l'Empire perse, de pouvoir réunir des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, dans le grand Empire perse. Mais ça, c'est ce que réalise, et c'est réalisé de manière bien imparfaite, et c'est réalisé de manière parfaite dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a encore un point qui peut être important de rajouter dans cet accomplissement dans l'Église de ce qui est préfiguré par Israël dans l'Ancienne Alliance, c'est que cette communauté qu'est l'Église, qui est l'accomplissement d'Israël, qui est la préfiguration de la Nouvelle Jérusalem, donc Israël était la préfiguration de l'Église et l'Église est la préfiguration de la Nouvelle Jérusalem, cette Église qui rassemble des personnes, quelle que soit leur origine, cette Église se comprend spirituellement comme une communauté d'immigrés dans le monde. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Philippe, « Notre citoyenneté, elle est dans le ciel, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 13 et au verset 14, « Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Et le texte qui a été médité hier après-midi, 2 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2 verset 11, « Je vous exhorte, comme étant de passage et immigrés sur la terre, à vous garder des passions humaines. » Les deux termes qui sont employés ici par l'apôtre par Pierre correspondent aux termes qui sont employés dans le chapitre 23 de la Genèse à propos d'Abraham lorsqu'il achète le petit lopin de terre pour en tirer sa femme. Abraham explique « Je suis guerre et toshav ». Et c'est ce terme qui sont traduits en grec par d'autres mots, ce sont ces termes qui sont repris par l'apôtre Pierre pour s'adresser aux chrétiens. Vous êtes de passage et immigrés. De passage, pas tellement parce que vous allez mourir, c'est vrai que nous allons mourir, mais de passage parce que votre citoyenneté, c'est celle de la Nouvelle Jérusalem. Et vous êtes donc en attente de cette patrie qui sera manifestée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit là une parenté entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans la loi de l'Ancien Testament, Paul dit, Dieu dit, c'est pas Paul qui disait dans l'Ancien Testament, c'est Moïse, il disait « Vous avez été immigrés ». Vous avez été immigrés, et c'était une motivation pour s'intéresser aux immigrés. Et le Nouveau Testament, vous dites, vous êtes immigrés. Vous êtes immigrés parce que vous êtes en attente de votre patrie. Alors maintenant, quelle responsabilité dans la société ? Mais là, j'élargis le cercle pour y inclure le monde. Alors, l'Église peut être et doit être un témoignage pour le monde. Un témoignage de l'universalité du message de l'Évangile. Un témoignage de l'amour de Dieu. Vous voyez que mes flèches sont plus longues et plus nombreuses pour l'Église, qui a une mission vis-à-vis du monde qui est bien plus manifeste que celle d'Israël. Israël doit avoir une attitude particulière à l'égard de l'immigré. J'ai mis plutôt des flèches dans le sens vers l'intérieur, alors que là, je mets plutôt des flèches dans le sens, vers le sens de l'extérieur. Alors, ce qui est le plus important, c'est le témoignage, l'annonce de l'œuvre du Christ. Mais il y a également une autre forme de témoignage qui est la réalité même de l'Église, une Église dans laquelle des personnes de toutes origines, de toutes cultures, se retrouvent unies par l'amour du Christ. Et l'apôtre Jean écrit dans le chapitre 4 de sa première lettre, 1 Jean chapitre 4 verset 12, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est réalisé en nous. » Voilà le témoignage que l'Église peut porter au monde. Alors ce témoignage, nous savons malheureusement, est imparfait, mais c'est à nous aussi de le rapprocher le plus possible de ce que Dieu demande. Alors maintenant, j'arrive à des questions plus complexes. Vous voyez que là, j'imagine une application d'Israël à la société. Et je pose la question, comment peut-on considérer la question migratoire à partir de la révélation biblique? Là, c'est une question de société. Et cette question, on ne peut pas l'éluder parce que c'est une question qui va déterminer notre façon d'agir ou de ne pas agir dans la société. Et c'est une question qui va déterminer aussi notre façon de voter. J'espère que vous votez. Parce que la chose la plus stupide, c'est de ne pas voter. Alors, nous avons constaté dans l'Ancien Testament, dans les lois de l'Ancien Testament, un intérêt marqué pour l'immigré, un nombre important de dispositions qui sont favorables, et puis nous avons constaté aussi des limites. Et nous avons constaté aussi des contraintes sérieuses qui vont jusqu'à l'extermination des Cananéens. Alors, quand on essaie de passer de l'Ancien Testament à aujourd'hui, que font les chrétiens? L'attitude spontanée de beaucoup de chrétiens, c'est de prendre dans l'Ancien Testament ce qui leur paraît positif, ce qui va dans le bon sens, comme on dit, et puis d'ignorer pudiquement le reste. Alors, je ne voudrais pas être trop négatif. Le résultat globalement n'est pas totalement aberrant, parce qu'on sent bien que dans cette façon de prendre des choses dans l'Ancien Testament et d'en laisser d'autres, on sent bien que Jésus et l'enseignement du Nouveau Testament sont passés par là. Et heureusement, parce que quand les chrétiens ont pris directement l'extermination des Cananéens pour justifier des guerres d'extermination, on voit bien que ça n'est pas acceptable. Mais cette méthode empirique, elle est quand même un peu risquée. Elle est un peu risquée lorsqu'on constate que le Nouveau Testament nous dit en fait très peu de choses sur la façon dont un État doit être gouverné. Moi, je vois deux choses qui sont affirmées, et d'ailleurs qui sont reprises dans le passage de la première lettre de Pierre qu'on a vu hier après-midi. Deux choses, les malfaiteurs doivent être punis, les gens honnêtes doivent être protégés, le chrétien doit être soumis aux autorités. C'est ce que dit Pierre, et puis dans un autre passage, on a Paul qui dit la même chose. On sait bien, mais c'est pas beaucoup quand même. Et puis absolument rien sur les questions migratoires. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a rien dans le Nouveau Testament. J'ai trouvé un seul exemple, Actes chapitre 18, verset 2, où on nous dit incidemment que l'empereur Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Mais vous voyez la façon extrêmement neutre dont c'est dit. On ne dit pas « l'horrible empereur Claude a expulsé les Juifs de Rome ». On dit simplement « il leur a donné l'ordre de quitter Rome ». Alors, il me semble important d'essayer de mettre un peu de clarté dans l'interprétation chrétienne de l'Ancien Testament, ici sur les questions sociales et politiques. Alors, je le répète, il faudra constamment y revenir, ça n'est pas l'axe majeur de l'action divine dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'on peut être sûr que si c'était vraiment l'axe majeur, si c'était là qu'on doit s'engager, si c'était là ce qu'il fallait faire, Jésus et les apôtres nous auraient quand même dit davantage. Ils nous auraient briefé sur ce qu'on devait faire. Alors, l'interprétation chrétienne des lois de l'Ancien Testament. Il me semble très utile de revenir à une distinction qui est traditionnelle dans l'interprétation chrétienne de l'Ancien Testament et qui distingue dans la loi de l'Ancien Testament trois domaines. Il y a le domaine de la morale. Vous aurez peut-être remarqué que je n'emploie jamais le mot d'éthique, là, que je préfère employer le mot de morale, on pourrait éventuellement en discuter, mais je n'aime pas les mots que l'on évacue comme ça, parce que ce sont généralement aussi des réalités qu'on évacue avec les mots. Donc je dis la morale. Ensuite, le culte, et puis troisième domaine, la cité. La loi de l'Ancien Testament, elle englobe et elle imbrique aussi ces trois domaines. Mais lorsqu'on lit le Nouveau Testament, et la façon dont le Nouveau Testament parle ou reprend des éléments de la loi de l'Ancien Testament, on constate, premièrement, que tout ce qui relève des cérémonies du culte de l'ancienne alliance, cela appartient à un régime antérieur, à un régime ancien qui n'est plus le nôtre dans la nouvelle alliance. Les sacrifices, les fêtes, les règles alimentaires, les règles de pureté rituelle, la circoncision, etc. Tout cela, ce n'était, selon l'enseignement des auteurs du Nouveau Testament, ce n'était que l'ombre des choses à venir, et la réalité, elle est en Christ. Colossiens chapitre 2, verset 17. D'autre part, tout ce qui relève de la morale dans l'Ancien Testament et qui est repris dans le Nouveau Testament n'est jamais remis en cause. On ne trouve pas un seul passage du Nouveau Testament où on remet en cause un enseignement moral de la loi de l'Ancien Testament. Jamais on ne va nous dire que d'aimer son prochain, bon, bah, c'était l'Ancienne Alliance, mais maintenant on peut faire un peu ce qu'on veut, que de voler, c'était bon pour l'Ancienne Alliance, l'interdiction de voler, c'était bon pour l'Ancienne Alliance, mais que maintenant on peut être un peu plus large, etc. Au contraire, lorsque Jésus met un contraste entre ce qui a été dit aux anciens à propos de la morale et ce que lui enseigne, c'est pour renforcer ce qui a été enseigné. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas de meurtre », mais moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son prochain, que celui qui l'insulte, devrait être puni. Donc là, on a deux domaines qui sont bien identifiés et avec un mode d'application qui est un mode clair pour chacun. Nous ne sommes pas astreints aux cérémonies du culte de l'Ancienne Alliance et la morale représente la volonté absolue de Dieu, une volonté qui n'est pas limitée à l'Ancienne Alliance, une volonté qui est la volonté imprescriptible de Dieu. Cette volonté définit toujours pour nous ce qui est bien et ce qui est mal. Là, c'est clair. Là, ça devient plus compliqué, la cité. On voit bien, lorsqu'on lit la loi de l'Ancien Testament, qu'il y a que ce domaine est présent. C'est un domaine qui est distinct des autres, même s'il est imbriqué dans les autres, mais il est quand même distinct. Et c'est une composante évidente de la loi de l'Ancien Testament. La loi organise une société avec ses règles de fonctionnement, avec la manière de résoudre des litiges, avec en déterminant ce qui est un délit, ce qui est un crime, et les sanctions qu'il faut appliquer à ces délits et ces crimes, en décrivant la manière dont la justice peut et doit fonctionner. C'est donc là tout ce qui, dans nos sociétés modernes, est appelé la loi. Alors, les lois de ce troisième domaine, elles sont très peu citées dans le Nouveau Testament. Et il faut avouer que le Nouveau Testament ne nous offre pas pour ces lois de ce domaine-là, et il ne nous offre pas un mode d'application explicite, en disant « voilà comment il faut faire avec ces lois ». Ces lois font bien partie de la révélation de Dieu. C'est une loi qui émane de Dieu. Et comme telle, elle a une valeur inestimable. Mais il nous faut bien comprendre que ces lois représentent la volonté de Dieu, une volonté adaptée à une situation historique, sociale, économique, culturelle donnée, et que les lois de ce domaine composent avec des réalités qui sont manifestement en décalage avec la volonté du Créateur. L'esclavage, la polygamie, statut inférieur de la femme, et on pourrait probablement en trouver d'autres. Pourquoi Dieu, dans la loi qu'il donne à Israël, admet ces formes de compromis? Je pense qu'on peut en tirer ou en suggérer l'explication suivante, c'est qu'une loi idéale, ne saurait convenir à un monde qui ne l'est pas. Et que la loi doit toujours composer avec une réalité qui, malheureusement, n'est pas idéale. Il y a un exemple très intéressant et très significatif à ce propos. C'est la réponse que Jésus donne à la question qui lui est posée à propos de la répudiation, dans Matthieu chapitre 19. Dans sa réponse, Jésus fait bien remarquer la différence qui existe entre les intentions du Créateur. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et la volonté du Créateur à l'égard du mariage, c'est que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il fait la distinction entre la volonté du Créateur, et puis d'une part, et d'autre part, Moïse qui réglemente la répudiation à cause de la dureté du cœur humain. À cause de la dureté du cœur humain, il est préférable que la répudiation fasse l'objet d'une réglementation, une réglementation avec un document qui indique que la femme qui a été répudiée est dégagée de toute obligation à l'égard de son mari. Ça, c'est préférable parce que le cœur humain est tel que de dire « non, le Créateur ne veut pas de rupture du mariage, le Créateur ne veut pas de répudiation, un point c'est tout. » Non, il faut que la loi soit adaptée à la réalité du mal. Alors, c'est un compromis parce que la loi doit aussi essayer de corriger, la loi doit aussi essayer de ménager le maximum d'équité dans une situation qui est bancale. Alors, la bonne manière de lire ces dispositions-là, toutes ces dispositions qui concernent la cité, c'est d'abord d'y discerner la volonté morale de Dieu. Parce que c'est bien cette volonté absolue de Dieu, cette volonté morale qui s'exprime d'une certaine façon dans ses lois, et d'y discerner aussi la sagesse de Dieu qui, dans les circonstances... Pardon, faut pas que je m'approche trop du micro. Qui, dans les circonstances qui sont celles de l'ancien Israël à cette époque-là, a jugé dans sa sagesse qu'il fallait composer de cette façon avec la réalité. Alors, si nous revenons sur la question qui nous occupe, si nous revenons avec cette grille de lecture, nous pourrons constater que nous avons, j'ai mis certitude au pluriel, bon, moi je pourrais peut-être même dire une certitude et beaucoup de questions. La certitude, c'est que nous pouvons voir tout de suite tout ce qui relève de la morale, dans la loi de l'Ancien Testament, tout ce qui relève de la morale et qui crève les yeux. Il faut aimer l'étranger, immigré. Il faut le considérer comme ayant humainement la même valeur qu'un autochtone. Il ne faut pas l'opprimer, il ne faut pas l'exploiter. Il faut comprendre ou essayer de comprendre ce qu'il peut ressentir parce qu'on a connu une situation comparable. C'est intéressant d'avoir les témoignages d'hier soir sur cette question. Et tout cela, tout ce qui relève de cette volonté de Dieu, morale de Dieu, ça ne se discute pas. C'est la volonté absolue de Dieu, c'est la volonté imprescriptible de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous ne pouvons qu'aimer cette volonté. Nous ne pouvons que vouloir réaliser cette volonté dans notre vie, quelles que soient les circonstances. Cette volonté morale de Dieu, on la voit aussi s'exprimer dans un certain nombre de dispositions pratiques. Donc là, vous voyez que je passe à la perception de la volonté morale de Dieu dans des dispositions d'ordre civil. Cette volonté, on la voit s'exprimer, par exemple, dans la possibilité de glaner, de grappiller. Mais on voit aussi que ces dispositions, elles sont à l'intersection de la morale et de la loi. Glaner, grappiller, ramasser des olives après la récolte, c'est inscrit dans la loi, certes. Mais ça dépend encore très largement de la bonne volonté du propriétaire ou de ses employés. Vous n'allez pas avoir un inspecteur qui va regarder si vous avez laissé une partie de votre champ pour qu'il puisse être glané, ou si vous laissez en fait glaner ou ne pas glaner quelqu'un. Et si quelqu'un ne peut pas glaner, il va s'adresser au poste de police pour vouloir faire valoir ses droits. Il n'y a pas de police à l'époque. Donc, l'histoire de Ruth est très intéressante à cet égard. Parce que on reste dans un circuit court de relations humaines, des relations directes. Et c'est aussi la même chose pour la participation au repas de fête. Vous n'avez pas obligé quelqu'un à accepter un invité. C'est la même chose qui se passe pour la jouissance des produits naturels de la terre, puisque là, tout le monde, les propriétaires, les esclaves, les immigrés peuvent bénéficier des produits de la terre. Donc on se partage. Mais bon, comment est-ce qu'on se partage? Il faut qu'il y ait de la bonne volonté, et on reste dans des relations humaines directes. Donc on voit que la morale reste déterminante pour que les dispositions légales qui sont prises, ces dispositions soient suivies des faits. Et c'est donc toujours cette même volonté divine d'amour, d'entraide, qui s'exprime dans ces dispositions. Mais alors là, tout de suite, va surgir une question délicate. Si Dieu, dans sa sagesse, a laissé une telle place à la bonne volonté individuelle, pour permettre à l'immigré de subsister, est-ce que il faut l'imiter ? Imiter Dieu. C'est-à-dire qu'il faut laisser à l'initiative charitable individuelle ou l'initiative charitable associative l'essentiel de l'aide, de l'entraide. Par exemple, au lieu de l'aide médicale d'État dont bénéficie l'immigré, même lorsqu'il est en situation irrégulière, au lieu de l'aide médicale d'État, et qu'il ne faudrait pas davantage compter que le médecin, ou un certain nombre de médecins ne vont pas faire payer la consultation. Mais que va faire le pharmacien ? Que va faire l'hôpital ? C'est certain, lorsque l'on considère les dispositions qui sont prises dans l'Ancien Testament en faveur de l'immigré, qu'il n'a pratiquement rien d'assuré. Même le bénéfice de la dîme, Deutéronome 14, même ce bénéfice est difficile à estimer. Tous les 3 ans seulement, c'est quand même pas très rassurant. Même si c'est là quelque chose qui est dû et qui est donné. Mais vous voyez, lorsque je me lance dans ce genre de réflexion, est-ce que ça n'est pas imprudent de se lancer dans des transpositions qui sont trop immédiates, lorsqu'on sait qu'à l'époque, pour tous, la vie est beaucoup plus précaire qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'assurance maladie, qu'il n'y a pas de retraite, qu'il n'y a pas de police, qu'il n'y a pas de service public. Alors, est-ce qu'on peut prendre comme ça un élément et tenter de le transposer dans la place de l'initiative individuelle ou associative ? Est-ce qu'on peut prendre, c'est pas dangereux de prendre un élément et de le transposer sans tenir compte de l'ensemble ? Autre question. Vous voyez, j'ai dit une certitude et beaucoup de questions. Ce sont des questions que je pose. On constate que pour la plupart des dispositions, l'immigré, comme le pauvre autochtone, ne bénéficie pas d'une aide qu'on pourrait qualifier de passive. Glaner, grappiller, c'est travailler très dur. Plus dur que celui qui récolte naturellement son champ, de manière normale. Et de même, ramasser les produits de la terre, la 7e année, bon, c'est essayer de trouver ce qu'on trouve, c'est également un travail pénible. Donc on voit qu'avec toutes ces dispositions-là, l'immigré n'est pas un assisté. C'est avec peine qu'il assure sa subsistance. Ce qui peut d'ailleurs lui valoir davantage le respect et la compassion de ceux qui sont exhortés à l'aimer et à l'aider. Alors, nouvelle question, mais toujours une question. Faut-il privilégier les dispositifs où l'aide n'est pas accordée sans travail ? Mais ça n'est pas facile à mettre en place. Puis le marché du travail est extrêmement complexe. Et puis le travail clandestin existe bel et bien, mais avec les abus qui s'attachent à ce genre de fonctionnement. Est-ce que c'est un moindre mal ? Ou est-ce que c'est inacceptable ? Est-ce que c'est une exploitation honteuse ? Donc nous voilà avec bien des questions et des réponses qui sont loin d'être évidentes. Et je vois là aussi ressortir de plus en plus ma propre incompétence et ma propre inexpérience, parce que je vous ai dit, ce que je sais faire, c'est d'interpréter l'Ancien Testament, mais après, de proposer des dispositions pratiques pour la société et pour l'État, ça n'est pas mon domaine, et je préfère garder les limites qui sont les miennes. Autre question, vous voyez, je vais en poser des questions, plus fondamentales et plus sensibles. Nous avons bien noté que l'attitude favorable à l'immigré était ancrée dans une conception très forte et très exigeante de l'identité d'Israël. Une identité qui est protégée par des avantages spécifiques pour les autochtones et qui est protégée également par les interdits religieux qui sont sanctionnés avec une extrême rigueur. Alors, nous avons vu comment dans l'Église se conjugue la générosité de l'accueil avec une identité forte, mais qu'en est-il pour un État ? Un État qui gère l'apport ou non d'étrangers immigrés. Et ça peut nous amener à nous poser deux questions. D'abord, faut-il nécessairement une identité forte pour être généreux, et que l'un ne va pas sans l'autre, et qu'il est illusoire de penser qu'on sera généreux si on n'a pas une identité forte. Et puis, deuxième question, la religion a-t-elle un rôle à jouer dans la définition de l'identité ? C'est toutes les questions que nous pose l'Ancien Testament si on prend les dispositions dans leur ensemble. Alors, je vais commencer par la deuxième question. La réponse à cette deuxième question, elle nous paraît certainement ici, aujourd'hui, en France, évidente. Parce que nous sommes acquis depuis longtemps, depuis plus longtemps que l'Église catholique, nous sommes acquis à la neutralité et à l'impartialité de l'État en matière de religion. C'est un héritage ancestral, un héritage protestant et évangélique. C'est l'héritage de communautés minoritaires qui ont tout à perdre d'une collusion de l'État avec une confession particulière. Et des communautés qui sont fortement attachées, on pourrait même dire aussi viscéralement attachées, à la liberté de conscience, à la liberté de culte et à la liberté aussi de témoigner de sa foi. Et cette situation de communauté minoritaire vis-à-vis d'un État non confessionnel, d'un État qui est garant de l'ordre et des libertés publiques, cette situation, elle correspond au fond à celle que le Nouveau Testament nous donne de l'Église. Alors, on pourrait discuter sur d'autres situations possibles, mais je ne vais pas m'engager là-dedans parce que ce serait un autre débat. Je ne veux pas dire que c'est la seule possible, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant que ce soit la même que celle du Nouveau Testament, et ça nous permet au moins provisoirement de nous en contenter. N'allons pas chercher plus loin. On peut cependant, à l'égard de cette question, observer deux choses. D'abord, que cette situation de laïcité qui est la nôtre, la neutralité de l'État par rapport à la religion, c'est une situation qui s'est développée avec un arrière-plan chrétien. Alors, les gens vont le reconnaître ou pas, ils vont dire ce sont les Lumières, c'est pas l'Église, c'est pas l'héritage chrétien, c'est l'héritage des Lumières. On peut en discuter, mais nous savons quand même la part que la vérité de l'Évangile tient dans cette situation. Et nous pouvons en être reconnaissants au Seigneur d'abord, à son Évangile, et puis aussi à un certain nombre de prédécesseurs qui ont défendu ces valeurs. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que d'autres religions que le christianisme, et en particulier l'islam, n'entretiennent pas des rapports similaires avec la société et avec l'État. Et l'islam, là, c'est non seulement dans des formes extrêmes, mais même dans son essence même, l'islam est une religion qui a pour vocation d'imprégner toute la société et de la régenter. Si on prend comme indice, on peut en prendre d'autres, si on prend comme indice les règles alimentaires qu'elle impose, c'en est une marque visible. Les règles alimentaires, si vous faites alimentaire, hein, si vous prenez la situation dans l'Ancien Testament, il y a des règles alimentaires qui distinguent les Juifs des autres. Dans le Nouveau Testament, il y a toute cette discussion à propos de savoir s'il faut être juif pour être chrétien qui aboutit à la conclusion qu'il n'y a justement pas de règles alimentaires pour que l'universalité du message de l'Évangile soit sauvegardée sans imposer une culture. Et avec l'islam, vous avez un message universel, mais avec des marques ethniques et culturelles, qui sont des marques religieuses. Donc, l'islam va poser immanquablement des problèmes identitaires. Et il est légitime que les autorités publiques s'en préoccupent. Je suis là dans le rapport entre l'État. Je ne parle pas de l'évangélisation. Et je ne pense, là, c'est intéressant de voir quels sont les conseils qui sont donnés pour annoncer l'Évangile. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de commencer à annoncer l'Évangile, mais ça peut se discuter. Je livre là simplement une analyse sur ce qui se passe dans la société. Dans le livre sur la violence, j'ai un article sur la violence monothéiste, et j'ai plusieurs pages sur cette question avec d'abondantes citations d'un islamologue. Je reviens maintenant à la première question, identité forte. Une nation doit-elle avoir une identité forte pour être généreuse? C'est bien ce que semble indiquer l'exemple de l'Ancien Testament. Mais là, nous restons avec des questions de nouveau. Parce que si cette identité n'est pas déterminée par la religion, par quoi va-t-elle être déterminée, cette identité? Est-ce que c'est par l'histoire de la nation, ses mythes fondateurs? Est-ce que l'identité va être déterminée par la réalité actuelle qui est marquée par une diversité d'origine, de culture, de religion? L'identité plurielle, ce sera ça l'identité? Ou peut-être même la pluralité comme identité? Lorsqu'on avance cette proposition, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'est pas très loin de l'Église. L'Église à propos de laquelle Paul déclare: il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Colossiens chapitre 3, verset 11. Alors on est tout près de l'Église, tout près, à ce petit détail près, tout petit détail, il n'y a plus le Christ. Le Christ qui, lui, réalise ce que l'homme ne peut pas réaliser. Alors vouloir faire la même chose que le Christ, sans le Christ, gare aux illusions. Et c'est bien dommage que beaucoup de chrétiens ne voient pas le problème. J'ai jusqu'à quelle heure? 3 minutes. Bon, je vais... Ce sera peut-être un petit peu juste... Bon. Alors, oui, autre question, la politique migratoire. Sinon, vous allez me dire qu'il y a des questions que je laisse de côté. L'Ancien Testament nous dit peu de choses sur la façon dont il faudrait accueillir, parce que c'est le titre, accueillir l'étranger. Est-ce que l'Ancien Testament nous dit qu'il faut accueillir l'immigré? Il y a un texte qui est très explicite et qui est fondamental, c'est le texte de Deutéronome 23, versets 15 et 16. « Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera, et tu ne l'opprimeras pas. » Là, on a affaire à une disposition qui est quasiment unique dans tout le Proche-Orient ancien. Dans le Proche-Orient ancien, accueillir un esclave, c'est un vol. Et c'est la, le code d'Hammurabi, une loi 18e siècle avant Jésus-Christ, dit que celui qui prête assistance à un esclave fugitif ou qui lui donne asile sera puni de mort. Et les traités internationaux de l'époque comportent très souvent des clauses d'extradition des esclaves en fuite. Et si vous remarquez, si vous lisez bien attentivement la formulation, elle laisse bien comprendre que l'esclave en fuite, ça n'est pas un Israélite. C'est un étranger qui était esclave et qui vient se réfugier en Israël. Donc là, on a une forme tout à fait typique du droit d'asile. Une forme qui s'apparente au droit d'asile moderne auquel sont engagés un grand nombre de pays, et la France notamment, ce droit d'asile qui est garanti par la Convention de Genève. Convention de Genève relative au statut des réfugiés, texte de 1951, modifié par en 1967. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. Immigration légale ou illégale ? Là, je me réfère à l'ouvrage d'un auteur américain, évangélique, bon spécialiste d'archéologie égyptienne, James Hoffmeyer. Et James Hoffmeyer pense pouvoir établir que le terme de guerre désigne un immigré en situation régulière, à la différence d'autres immigrés qui ne sont pas en situation régulière, qui ne bénéficient pas de ce statut, comme le Toshav ou le Nohri. Excusez-moi, je remploie des mots d'hier. Et voilà comment il développe son argumentation. Il explique que les frontières des États, à l'époque, étaient surveillées, qu'il fallait une autorisation pour pénétrer dans un pays. Et il en rapporte pour preuve un document égyptien où l'on voit une famille d'étrangers qui passe la frontière avec un document qui indique précisément le nombre de personnes qui passent la frontière pour entrer dans le pays. Et puis on en a aussi la confirmation dans les récits bibliques. La famille de Joseph, les 70 personnes qui composent la famille de Joseph, ne vont pas s'installer sans avoir l'autorisation du pharaon qui leur indique où ils peuvent s'établir. Ce sont des immigrés particulièrement favorisés, puisque c'est la famille du Premier ministre, mais ils ont quand même dû rencontrer le pharaon qui leur a assigné l'endroit où ils se trouvent. Et l'on voit aussi que les frères de Joseph, lorsqu'ils arrivent en Égypte, eh bien on les interroge, on leur demande d'où vous venez, qui êtes-vous, vous avez de la famille. Voilà. Seulement, si on essaie de transposer ça à Israël, ça paraît quand même un peu incertain. Est-ce qu'il y avait en Israël un contrôle des frontières aussi bien organisé qu'en Égypte ? L'Égypte contrôle très étroitement la frontière est à l'époque, avec des forts, avec des murs, parce que c'est de là que sont venus les souverains Hyksos qui ont gouverné l'Égypte. Donc on est très méfiant à l'égard des gens qui viennent de l'Est en Égypte. Et puis l'Égypte a quand même des moyens militaires et administratifs que n'avait pas le peuple d'Israël. Lorsqu'on a des exemples de migration dans l'Ancien Testament, migration d'Abraham à Guérar, migration d'Elimelech et Naomi au pays de Moab, migration de la femme qui avait reçu Élisée chez lui, elle a été avertie de la famine, elle va chez les Philistins, on n'a pas d'exemple de refus ou d'interdiction qui est opposée à ces migrations économiques. Les deux exemples de refus que l'on a, c'est lorsque le peuple d'Israël, après avoir traversé le pays d'Égypte, se présente à la frontière d'Édom. Alors là, on leur dit non, 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 n'entrez pas. Hein. Alors ils voulaient simplement traverser le pays, et puis ils ont dit on va payer l'eau et la nourriture. Mais là, le roi dit non, 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 et puis il arrive avec son armée et dit non, non. Évidemment, quand une population aussi nombreuse se présente à la frontière, ça passe pas inaperçu. Et puis le même phénomène va se reproduire avec les Amoréens du roi Sion. Alors on pourra dire que ce sont des gens qui sont très égoïstes, puisqu'ils ne veulent même pas laisser passer des gens qui ont traversé le désert, mais dans le même contexte, on voit que Dieu se présente comme le garant de l'identité territoriale des peuples. Deutéronome chapitre 2, versets 4 et 5. « Vous allez passer à la frontière de vos frères d'Ésaü, ils vous craindront, mais soyez sur vos gardes, ne les attaquez pas, je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante de votre pied, pas même un pied-à-terre. J'ai donné, Dieu dit, j'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Donc, si on considère que la structure administrative d'Israël n'est pas assez développée pour assurer un contrôle régulier des migrants à l'entrée, on pourra dire à ce moment-là ou constater que c'est de la bonne volonté au niveau individuel, c'est de cette bonne volonté que va dépendre ou non le fait d'être accepté comme immigré et de résider comme immigré. On voit l'exemple d'un Lévite, Juges chapitre 17, verset 6, qui est parti de chez lui en quête de résidence là où il trouverait. Pour finir, il y a un endroit où il peut résider. On se retrouve donc avec la relation humaine directe et la bonne volonté. Donc, il me semble que par rapport à cette question... Ah oui, j'ai oublié de vous signaler que, justement, James Hoffmeyer est en débat avec d'autres auteurs. Vous voyez le titre significatif. « Notre Dieu est sans papier ».« Undocumented », oui. « Notre Dieu est sans papier ». Et puis, un autre ouvrage... Christian at the Border. Alors, vous voyez que ces deux ouvrages sont postérieurs à celui de James Hoffmeyer, mais en fait, là, Christian at the Border, c'est la deuxième édition d'un livre qui a paru avant, et en fait, James Hoffmeyer répond à Daniel Carroll sur cette question-là. D'ailleurs, les images sont assez significatives du contenu de l'ouvrage, en tout cas de l'argumentaire développé par leurs auteurs. Donc, je reviens à ma conclusion sur cette question. Parler d'immigration légale ou illégale pour l'Ancien Testament, ça me paraît être un peu décalé. L'usage de termes différents, il y a guerre, il y a nokri, etc., ça renvoie certainement à des situations différentes, de personnes qui ont un statut plus ou moins permanent, selon leur choix. Ça peut être le choix des personnes, mais ça peut être aussi la bonne volonté des autochtones, une bonne volonté au niveau local, au niveau individuel, au niveau de la communauté locale, du village ou des individus qui vivent dans le village. On peut comprendre un peu comment les choses se passent, quand elles se passent bien, en suivant la situation de Ruth. Il y a d'un côté la bienveillance de Boaz envers Ruth, et puis, il y a le capital de sympathie et de respect que Ruth, une étrangère, acquiert lorsqu'on connaît son parcours et lorsqu'on la voit travailler. Alors, j'arrive à ma conclusion. Conclusion en trois points. D'abord, une orientation morale claire. Une orientation morale qui transcende toutes les situations particulières. Ne pas opprimer, ne pas exploiter, traiter comme un être humain à part entière, aimer comme soi-même. Cela vaut évidemment pour tout être humain, mais si l'Ancien Testament trouve utile de le souligner avec une telle insistance pour l'immigré, c'est précisément parce qu'il se trouve dans une situation où on risque de l'oublier. Cette orientation morale, elle se trouve fondée en Dieu lui-même, Dieu qui aime l'immigré. Et cela doit nous orienter vers des actions concrètes possibles. Et il y a des associations chrétiennes, notamment des associations chrétiennes, qui s'engagent dans cette action. Deuxièmement, une préfiguration de ce qui se réalise et de ce qui s'accomplit dans l'Église et dans le GBU, qui participe à cette action de l'Église par le témoignage, missionnaire dans mon école, missionnaire dans ma fac. Une Église qui rassemble des personnes de toutes origines, qui les unit dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, et l'Église qui constitue pour le monde, pour la société qui l'entoure, une démonstration du caractère universel de l'action de Dieu et de son salut. Troisièmement, une contribution lucide à l'approche des problèmes contemporains d'immigration, lucide sur les difficultés réelles causées par les ou liées aux différences de culture et de religion, lucide sur les dangers de discours utopistes, abolition des frontières, identité plurielle, ces discours utopistes qui, en fait, ont pour résultat de dresser les humains contre les autres, de les exaspérer. Heureusement qu'il y a des frontières. Comment voulez-vous parler d'asile s'il n'y a pas de frontières? Sans frontières, il n'y a plus d'asile. Tout le monde peut aller partout et personne n'est protégé. Donc, l'Ancien Testament nous donne une leçon de réalisme qui permet aux chrétiens de penser, d'agir dans ce monde pour le bien de ses semblables, qu'ils soient autochtones ou immigrés, et toujours, alors je reviens à mes deux points principaux, parce que là, le troisième, c'est un point qui a une certaine importance, mais qui est accessoire par rapport aux deux autres, en gardant dans le cœur l'orientation morale fondamentale et l'axe majeur de l'action de Dieu dans le monde, qui est l'Église et l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Alors j'avais aussi il y a un communiqué de l'Alliance évangélique européenne que je vous recommande sur cette question, qui a un communiqué du 23 septembre 2015. J'avais noté un certain nombre de choses. Par exemple, là, il mentionne qu'il y a au moins 30 ONG chrétiennes évangéliques qui sont en activité en Europe sur la question de l'immigration. Et puis là, il y a un paragraphe où ils indiquent bien que cette action n'entend pas dicter aux États leur politique migratoire, que c'est une question plus complexe. Et je vous recommande, si la question de la migration vous préoccupe, ce petit document qui est très... Voilà, c'est tout petit. Ça n'est pas un document chrétien, c'est la documentation française, et c'est un... j'ai oublié le terme, un démographe, François Héran, il y a beaucoup de chiffres et de données intéressantes pour démonter un certain nombre de discours qui sont très approximatifs sur la question. Voilà. Merci de votre patience.
Il y aura une question tout à l'heure.
Oui, tout à l'heure, d'accord.
Il y aura un temps de questions de quelques dizaines de minutes tout à l'heure, hein, donc vous pourrez répondre ou poser des questions.